France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, une deuxième émission aujourd'hui consacrée au Concile de Nicée I, cette fois-ci en compagnie de Marie-Hélène Robert, professeure à l'Université catholique de Lyon, pour parler du colloque œcuménique qui a eu lieu en janvier 2025 sur le thème « Célébrer le Concile de Nicée, recherche interdisciplinaire sur l'unité et le dialogue entre théologie et culture ». Et de sa suite, donc naturelle, l'ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cerf, sous le titre « Célébrer le Concile de Nicée ». Marie-Hélène Robert, bonjour.
Bonjour.
Commençons par le colloque de janvier 2025 qui a été organisé par la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon et par vous-même en fait.
En fait, on a voulu regarder ce que ce concile de Nicée pouvait nous dire aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on célèbre 1700 ans de cet événement aujourd'hui et comment les chrétiens peuvent confesser ensemble le mystère du Christ consubstantiel au Père. Et c'est un colloque qu'on a voulu charger de synergie, de partenariat. Parce qu'on ne peut pas travailler cette question sans réfléchir ensemble, toutes les disciplines, les confessions différentes, parce que c'est un événement qui nous concerne tous, en fait, à la définition de notre foi commune. Et on ne voulait pas organiser un colloque seulement sur l'histoire du Concile de Nicée. On voulait aussi regarder bien quels étaient les enjeux pour aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire appel à un comité scientifique très large, formé par les 5 départements de notre faculté. On a de la Bible, de la patristique, on a de la théologie, de la morale, de l'histoire. Et on a aussi un membre de la faculté de philosophie. Et on a été très heureux d'avoir le professeur Julia Vidovic avec nous, de l'Institut Saint-Serge, et puis le pasteur Servu Triche, membre du groupe des Dombes. Et bien sûr, on avait associé Source Chrétienne à notre événement. Et puis, dans le colloque, on avait aussi des collègues de 6 facultés ou universités en France et en Europe. L'ITEO, bien sûr, Saint-Serge, les facultés Loyola Paris, l'ENS. On avait aussi l'université d'Angers, de Vienne, même de Tel Aviv, mais il n'a pas donné sa contribution dans le volume. Et puis l'université pontificale grégorienne de Rome.
Merci. Alors, on va parler un tout petit peu du livre maintenant, qui reflète évidemment le concile, mais est-ce qu'il y a des changements aussi par rapport au colloque ?
En fait, dans le colloque, on a voulu faire se répondre l'histoire et l'actualité. Et on a vu après que c'était un peu confus pour faire le livre. Et on a tout redistribué en 3 grandes parties. La première, un concile en recherche de son unité ou de l'unité, donc plutôt sur l'histoire du concile. Et c'était notre collègue Marie Chaillet, patrologue, qui s'occupait de cette première partie. Une deuxième, on a rassemblé les contributions sur les ancrages philosophiques, bibliques et ecclésiaux, avec notre collègue bibliste François Lestan. Et j'ai moi-même coordonné la troisième partie, Nicée en dialogue avec les cultures plus contemporaines. Et vous voyez, c'est important pour nous de montrer que dans ces 3 parties, eh bien, la culture est présente. Un foisonnement de culture, dès l'époque de Nicée, dès l'histoire, et dès aussi la Bible et les ancrages philosophiques. Ces différences de culture, bien sûr, ça va provoquer des tensions, mais on se rend compte aussi que c'est source de grande richesse et d'unité, parce que ça nous invite à aller au cœur de la foi. Pourquoi ? Parce que la théologie, elle n'est pas isolée du monde dans lequel elle se déploie. Et la réflexion dogmatique, c'est une réalité bien vivante, même une réalité qui fait vivre, au sein de la multiplicité tout à fait légitime des cultures. Et on voit aussi que les questions d'histoire, elles ne sont pas limitées au passé. Elles font partie de cette mémoire commune, une mémoire vivante, qui est attachée à son trésor et qui se remodèle selon les contextes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette mémoire, elle ne disparaît pas, elle ne s'altère pas, mais elle se remodèle. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce croisement entre la rigueur des analyses historiques et la mise en résonance avec nos cultures contemporaines.
Merci beaucoup. Alors, on va prendre le temps, évidemment, maintenant, de parler de manière plus détaillée de différentes contributions et surtout des points qui sont abordés dans le livre. Je précise que cet ouvrage est paru sous la direction commune de vous-même, donc, mais également avec 2 de vos collègues, Marie Chaillet et François Lestan, qui sont les co-directeurs de cette édition. C'est un ouvrage très impressionnant et qui couvre, comme vous avez dit, d'abord un champ assez vaste dans le christianisme. Évidemment, il y a plusieurs confessions qui sont représentées. Puis, évidemment, des périodes d'histoire très différentes et c'est très important. Alors, on va prendre les points qui sont, à votre avis, déjà importants et puis on va les détailler de plus près.
Pour moi, tout est vraiment important hein, parce que l'événement du Concile lui-même, avec ses différents enjeux, des enjeux politiques, des enjeux culturels, des enjeux religieux qui vont s'entremêler, et les contributions essayent de mettre le doigt justement sur cet entremêlement et puis sur la manière dont ça peut se résoudre. Après, il y a aussi toute l'importance que prend cette question de la définition de la foi dans l'Église, hein, une Église qui tend vers son unité, toujours à partir de la Bible, qui est le point d'ancrage majeur, qui est le fondement, et puis en croisement avec l'étude de la philosophie grecque. Vous voyez par exemple Moreau qui travaille sur la question de Philon d'Alexandrie avec les différentes influences qui ont marqué les pères du Concile. Ou François Lestang qui travaille à partir de l'écriture avec est-ce que Jésus, il est l'image parfaite de Dieu et Jésus, est-ce qu'il est une créature ou non ? Il y a des éléments qui peuvent poser un peu question dans la manière dont c'est écrit, en fait, dans le texte lui-même. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. Qu'est-ce que ça veut dire, premier-né de toute créature ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres créatures ? Non, mais c'est qu'en lui, toutes les créatures ont été fondées, en fait, sont venues à l'existence. Donc ce genre de paroles qui peuvent porter à confusion, il faut les interpréter, et c'est ce qu'a essayé de faire aussi le Concile de Nicée. Et puis il y a une troisième partie que j'ai essayé de coordonner sur les cultures et les autres religions. Et en particulier, on a eu trois contributions qui ont parlé du judaïsme, du rapport à la Première Alliance, et même quatre si on compte celle de Michel Fédou qui fait un petit lien aussi. Et ça, c'est le point peut-être le plus original du livre, hein, ce dialogue avec le judaïsme, comme chance pour travailler l'unité, pour montrer également la particularité unique du christianisme et pour voir aussi que le judaïsme a essayé de penser de manière un peu particulière la question de l'incarnation de manière différente que nous, que les chrétiens, avec l'idée de corporéité divine et l'idée des hypostases de Dieu. Et Serge Autriche a fait une étude historique sur ces éléments-là, montrant justement des figures angéliques, par exemple, ou bien la dent cosmique ou la Shekinah, voyez, des gnoses aussi qui sont venues, et un tournant avec Maïmonide, où là, il est clair que pour le judaïsme, il n'y a plus de corporéité possible, peut-être par démarcation avec le christianisme, justement. Mais il y a toute une tradition qu'on ignore et qui est intéressante à redécouvrir dans ce sens-là.
Écoutez, comme vous dites, c'est très riche. Ça vaut la peine, évidemment, d'abord d'être lu évidemment en entier, mais évidemment de revenir sur certains points. Nous allons faire maintenant une pause en musique, comme nous avons l'habitude de cette émission, et c'est le credo qu'on va entendre, le credo, c'est-à-dire le texte dogmatique qui a été rédigé à Nicée et complété à Constantinople. Et cette fois-ci, c'est un extrait de la Divine Liturgie de Saint-Jean Chrysostome, opus 31, de Serge Rachmaninoff, par le chœur de chambre de Moscou, sous la direction de Vladimir Minin. Et après cet extrait du credo tiré de la Divine Liturgie de Saint-Jean Chrysostome par Serge Rachmaninoff, nous revenons à notre conversation avec Marie-Hélène Robert sur l'ouvrage qu'elle a co-dirigé avec ses collègues Marie Chayeb et François Lestang, « Célébrer le Concile de Nicée, recherche interdisciplinaire sur l'unité et le dialogue entre théologie et culture ». Ouvrage paru en 2025 dans la collection Patrimoine du CERF. Alors Marie-Hélène, cette fois-ci, je voudrais peut-être m'attarder sur une question que vous connaissez bien et que vous traitez dans le livre, et qui va nous occuper maintenant, c'est-à-dire les rapports entre l'hellénisme et le christianisme. On sait très bien qu'une partie du christianisme, actuel surtout, met en cause justement l'intervention et l'influence de l'hellénisme. Et donc Nicée 1 constitue une étape très importante dans cette hellénisation. Et je voudrais avoir votre sentiment et puis évidemment le contenu de votre exposé dans ce livre.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hellénisme, pour les catholiques, est vu comme quelque chose d'extrêmement structurant, de fondamental, et fait partie de la tradition, avec un T majuscule. Et en fait, cette position-là, elle est fermement défendue par le magistère catholique, alors qu'elle avait été mise en question par le protestantisme. Déjà les réformés, qui voulaient revenir au XVIe siècle à l'évangile seul, Luther et Calvin, ne voulait pas s'encombrer de trop de philosophie, et surtout pas de théologie scolastique, qui serait un peu trop intemporelle. Et alors, ils considèrent les pères de l'Église comme une aide, ils voient qu'ils sont inspirés, mais pour eux, leur enseignement n'est pas normatif, et il n'est pas contraignant. Il ne fait pas partie de la tradition avec un T majuscule. Et dans cette ligne-là, à la fin du XIXe siècle, eh bien, Adolf von Harnack a radicalement remis en cause l'usage du langage philosophique grec et toute la conceptualité grecque des pères apologistes du IIe au IVe siècle. Et puis il a continué. En fait, il ne restait plus rien. Il fallait faire un grand enjambement entre l'Évangile et son époque du XIXe siècle. On a des protestants libéraux qui ont continué à dénoncer une christologie du logos parce qu'ils pensaient qu'il était asservi à cette conceptualité étrangère à l'Évangile, étrangère à la Révélation. En fait, ça a été le procès de l'hellénisation du christianisme. Le magistère catholique n'a pas du tout suivi cette voie, même si on a quelques théologiens, comme par exemple Hans Küng, dans Être chrétien, qui ont essayé de marcher sur ces pas de contestation de l'héritage. Et en même temps, au XXIe siècle, mais déjà à la fin du XXe siècle, dans le contexte de la pluralité religieuse et culturelle, on voit que ce passage, vu comme obligé par l'hellénisme, peut être dénoncé comme un impérialisme, en fait. Un impérialisme dogmatique de la raison qui penserait que bien seule la raison grecque est universelle et peut penser la question de Dieu. Et on a des catholiques aussi qui refusent cette emprise de l'hellénisme. Et puis, parmi les missiologues, certains disent, mais enfin, on ne peut pas passer comme ça par le grec parce que ça nous fait un écran supplémentaire quand on annonce l'Évangile. On a déjà notre propre culture de missionnaire, la culture des récepteurs, les cultures de l'écriture, les cultures dans lesquelles la foi s'est définie et s'est développée. Ça fait beaucoup et ça fait écran. Et puis, une autre question qui est sous-jacente à celle-ci, c'est pourquoi dans tout cet ensemble culturel, la culture grecque aurait une place déterminante? Et alors c'est vrai qu'on voit la difficulté, parce que pour annoncer à une personne, on ne va pas peut-être commencer par parler d'homoousios, on va petit à petit acheminer la personne vers cette compréhension de la nature de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, la double nature de Jésus. Mais par rapport à ce rejet de l'héritage grec, peut-être qu'on peut dire que Harnack, il n'a peut-être pas pris assez en compte toutes les influences sur la théologie. C'est faux de dire que l'hellénisme a dominé et s'est emparé de l'héritage, parce qu'il y a aussi toute la latinisation, les aires syriaques, coptes, arméniennes, différentes coutumes, une diversité de liturgies, les arts. La différence, c'est que la rationalité grecque, elle a permis de définir la foi, mais c'est pas pour autant qu'elle l'a enfermée dans une culture, vous voyez. Au contraire, il y a une floraison de culture. Et dans le livre, on a le patrologue Bernard Meunier qui montre cette influence latine dans la formulation même du credo. Et vous verrez les tensions entre l'Orient et l'Occident qui sont fortes à l'époque. C'est vrai que la majorité des pères étaient grecs. Et Bernard Meunier soutient l'idée qu'en fait, c'est Constantin qui était marqué par la théologie latine et les pères latins qui a poussé pour ce mot, même s'il était grec, « d'homoousios », parce que il était convaincu que ça pouvait débloquer un certain nombre de questions. Vous voyez, quand Nicée dit que Jésus est consubstantiel, c'est-à-dire un seul être avec le Père, c'est difficile à traduire dans les langues, consubstantiel. C'est le théologien jésuite Henri de Lubac qui a eu une belle image. Il disait, Vous voyez, Pierre et Paul, ils sont bien de même nature. Et pourtant, ils ne sont pas consubstantiels, parce que ils sont deux hommes séparés. Alors que le Père et le Fils, ils partagent la même ousia, essence, vous voyez. Ils sont un seul être, ils sont un seul Dieu. Et c'est pourquoi le Concile de Nicée affirme avec force que le Fils n'est pas une créature, même une créature supérieure, comme disait Arius. Il est Dieu de Dieu, il est lumière de lumière. Il y a une autre réaction très intéressante de Alois Greimaller, qui a écrit un texte très très intéressant. Il écrit « Nicée n'est pas l'hellénisation, mais la déshellénisation ou la libération de l'image chrétienne de Dieu hors de l'impasse et des divisions où l'entraînait l'hellénisme. Ce ne sont pas les Grecs qui ont fait Nicée, c'est Nicée qui a surmonté les philosophes grecs. » Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, un certain néoplatonisme s'écartait à ses yeux de la vérité de l'Évangile parce qu'il était incapable de penser la relation et de penser le changement en Dieu. Or, le Logos, qui est préexistant, qui est éternel, dans le christianisme, peut devenir chair sans cesser d'être Dieu, vous voyez. Et Nicée, il s'appuie tout le temps sur le prologue de Saint Jean, sur Saint Paul, parce que Saint Jean parle bien de ce Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme, le Père et moi sommes un, Jean 10 par exemple. Et donc, c'est vrai qu'il y a une hellénisation avec un mot ou deux mots peut-être, mais le substrat est fondamentalement biblique. Ce n'est pas un credo qui a été surajouté, mais qui au contraire explicite le contenu même de l'Évangile. Puis le troisième point peut-être, ce serait de dire qu'il ne s'agit pas du tout de sacraliser la culture grecque, parce que les évangiles ne l'ont pas fait, les pères de l'Église ne l'ont pas fait du tout non plus, parce que la culture grecque, elle est aussi chargée de polythéisme, de différents points qui peuvent faire écran, comme on l'a vu aussi. Mais le langage grec, il peut être une chance pour le dialogue entre philosophie et théologie. Et puis, pour Michel Fédou, par exemple, il peut même être un paradigme très fécond dans l'inculturation pour essayer de traduire sans trahir ce mystère de Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Alors je vous renvoie à cette étude brillante où il montre que, en fait, Nicée devient un pont entre le judaïsme complètement monothéiste et le christianisme complètement monothéiste aussi, et des éléments de paganisme, par exemple dans la culture grecque. Alors il travaille un certain nombre de rapports avec les autres religions, en particulier l'islam, pour montrer qu'il n'y a vraiment qu'un Dieu, que c'est un strict monothéisme, le christianisme. Et puis il fait le lien aussi avec l'hindouisme, le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme, etc. C'est tout à fait intéressant. On peut dire qu'à Nicée, l'enjeu, ce n'est pas de remplacer le langage biblique par un langage philosophique. Non, le langage biblique est bien là. Mais d'utiliser la philosophie pour interpréter la Bible afin de combattre cette erreur grave de la doctrine qui porte sur le cœur même de la foi de Jésus, qui n'est pas une créature. Alors la question qu'on peut se poser, et c'est ce que je traite un peu dans mon travail, c'est est-ce que cette manière de procéder était là pour répondre à une circonstance particulière, donc elle serait exemplaire, on s'en est bien sorti dans l'histoire, ou bien est-ce que depuis Nicée, ça devient constitutif de parler de la foi, de théologiser, voyez. Alors, il y a différentes positions, même si, je le redis, pour le catholicisme, c'est vraiment fondamental, l'héritage grec, parce qu'il a permis de définir, de préciser la foi, et que l'héritage patristique appartient à la tradition. Et c'est ce que redisent les papes, le magistère, le pape Jean-Paul II, Benoît XVI, surtout Benoît XVI, pour qui on ne peut pas être chrétien si on rejette l'héritage grec. Il est très clair là-dessus. Pour le pape François, c'est plutôt une rencontre entre Bible et hellénisme vue comme un modèle, ce qu'il appelle un paradigme fertile. Alors moi, ma position, ce serait de dire qu'on ne peut pas enjamber 20 siècles de christianisme dans ce rapport entre foi, culture et raison comme Arnac l'a fait. D'abord parce que l'Esprit-Saint est aux commandes, c'est lui qui anime aussi l'Église. On ne peut pas non plus concentrer toute la raison et l'universalité de la raison dans la philosophie grecque, parce que la raison est dans d'autres cultures, on ne peut pas la capturer. Mais on ne peut pas non plus l'ignorer, on ne peut pas la relativiser, parce que là, on touche vraiment la question de la foi. Et la question qui va se poser, c'est bien, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage grec dans les cultures contemporaines qui dénonce l'impérialisme occidental? Mais vous savez, c'est bon, bien sûr en Asie et en Afrique, mais aussi en Occident, hein, parce que la postmodernité rejette cette manière de fonder la vérité sur un certain nombre d'affirmations, et surtout si elles sont anciennes. Hein, c'est pas tellement l'histoire qui fait autorité dans la postmodernité. Et donc pour moi, la piste la plus féconde, eh bien, ce serait celle de l'interculturalité, parce que avec l'interculturalité, on ne s'enferme pas dans une isolation, ni dans une confrontation de tout ce qui serait particularité. Mais au contraire, on va mettre en valeur les points de contact entre les différentes cultures et entre les attentes humaines. Et on peut même dire, moi je parlerais même d'interculturalité communionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est la force de l'Évangile et c'est le travail de l'Esprit-Saint qui permettent aux cultures et aux personnes de se rencontrer par le haut, en s'enrichissant mutuellement, voyez. C'est pas simplement une juxtaposition des cultures, c'est vraiment une rencontre des cultures qui donne le meilleur d'elles-mêmes pour essayer de recevoir ce mystère divin qui se révèle.
Merci beaucoup. C'est, je pense, avec ces mots-là que nous allons arrêter cette discussion fort intéressante. Évidemment, il faudra lire le livre pour cette émission écuménique aussi, parce qu'on voit bien que l'approche ici est écuménique. Je voulais, pour terminer, dire que le Concile de Nicée va être célébré, bien sûr, cette année pour ses 1700 ans, et qu'il y aura une célébration, ou plutôt une prière commune, à Nicée même, fin novembre, par le pape Léon et le patriarche Bartholomée de Constantinople. Les deux hommes se rendront sur place justement pour rendre hommage à ce qui s'est passé il y a 1700 ans. Marie-Hélène Robert, je vous remercie beaucoup. C'était donc célébrer le Concile de Nicée avec Marie-Hélène Robert. Je rappelle le titre de l'ouvrage « Célébrer le Concile de Nicée », le même, coédité par Marie-Hélène Robert, Marie Chayeb et François Lestan. C'est au CERF 2025. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Benjamin Vignal. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Sol Lael, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gadreau.